ça.
Clairement, le message de l'ONU-SIDA que nous supportons, bien sûr, c'est « scaling up ». Il faut passer à la vitesse supérieure et ce sont des années clés, disent-ils, pour faire la différence et donc supprimer cette épidémie ou au contraire la voir rebondir. Leur message, clairement, c'est qu'il faut plus que doubler, il faut tripler en fait le nombre de gens que l'on mettra sous traitement d'ici 2020. La réalité sur le terrain, celle des cliniciens comme nous à Médecins Sans Frontières, c'est qu'on est dans des cliniques qui sont déjà débordées. Vous savez, près d'ici, pour vous donner un exemple, une petite clinique de soins de santé primaire dans le township de Kayucha, il y en a une qui a 8000 patients sous ARV en traitement. Donc 8000 patients vivant avec le sida en traitement. Pour une petite clinique, ils ne peuvent pas faire que du sida. Ils doivent faire aussi les urgences, les accouchements, soigner les différentes maladies communes. Et donc tout ça avec un staff restreint. Donc la volonté de notre communiqué, c'est de dire on pourrait éventuellement passer à une vitesse supérieure, mais il faut alors changer complètement nos modalités pour délivrer les soins.
Vous parlez de la réalité sur le terrain en Afrique du Sud. Est-ce que cette réalité est similaire ailleurs en Afrique subsaharienne ?
Je suis venu récemment, j'étais en République centrafricaine, et j'étais au Congo aussi, donc je connais bien ces différents pays. Bien sûr, il y a une différence. On ne peut pas complètement adapter l'Afrique australe, qui a donc des prévalences très élevées, et donc partout, Zimbabwe, Malawi, c'est la même image, avec des files énormes de gens qui attendent dans la file d'attente tous les mois au centre de santé pour avoir leur traitement. Dans les pays à basse prévalence, à relativement basse prévalence, comme l'Afrique de l'Ouest, comme la République démocratique du Congo, il y a moins de files, mais il y a aussi beaucoup moins de prestataires. Pas toutes les cliniques sont équipées, formées, pas tout le staff pour faire ce genre de service. Et donc, on retrouve en général la même congestion, oui.
MSF préconise ce qu'elle appelle les modèles communautaires. Qu'entendez-vous par là ?
Ce qu'on entend par les modèles communautaires, en fait, c'est très simple. C'est de donner aux patients vivant avec le VIH une plus grande responsabilité dans la délivrance de leurs soins et dans l'observance de leur traitement. Qu'est-ce que l'on veut dire par là ? C'est que dans nos modèles de santé, je parle ici du service public en général, c'est vrai dans l'ensemble de l'Afrique, on confond le besoin de faire une consultation clinique avec la délivrance des médicaments. Pourquoi ? Parce que on n'a pas à disposition un système pour délivrer les médicaments à la maison. Pour vous donner un exemple, un patient qui est séropositif dans le service public en Angleterre, eh bien, ils ou elles recevront leurs médicaments à la maison tous les mois, envoyés par la poste rapide, alors que une fois que le traitement a été bien pris, après quelques mois, les malades en général sont stabilisés, donc leur besoin de consultation clinique est beaucoup moindre. Ici, on mélange les deux. Donc, on fait revenir les patients tous les mois pour les réapprovisionner en médicaments. Ils font la file, ils attendent toute la journée. Potentiellement, ils vont s'infecter avec d'autres patients. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut trouver des systèmes où, en fait, les patients n'ont plus besoin de venir aussi régulièrement à la clinique et ils vont s'organiser entre eux avec un appui éventuellement de la clinique qui est responsable de cette aire de santé. Ils vont s'organiser entre eux pour redistribuer les médicaments tous les mois. Et seuls ceux qui ont un besoin clinique viendront donc pour une consultation.